Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être venus pour cette petite ascension dans la vallée de Campan, en compagnie donc de l'auteur de L'Insoumis, Nicolas Bardinet. Alors Nicolas Bardinet, ce n'est pas son premier livre. Il y avait un excellent livre sur le banjo, un livre qui fait autorité sur le banjo, qui était magnifique, qui s'appelait Une histoire du banjo, je crois. Une histoire du banjo, voilà, aux éditions Outre Mesure. Très bien. Donc Nicolas, alors L'Insoumis, l'affiche, enfin la couverture, l'affiche sur la couverture ne laisse pas beaucoup d'ambiguïté. L'Insoumis, donc, c'est un ordre de mobilisation générale. Hein, donc c'est un insoumis qui va essayer d'échapper à la Première Guerre mondiale. Alors bon, il y a beaucoup d'histoires, il y a pas mal de personnages, on va en parler. Mais tout d'abord, je vais vous demander, Nicolas, d'où vient cette histoire d'insoumission dans les Pyrénées?
En fait, d'où vient cette histoire d'écrire un livre sur la guerre de 14, si tu me permets?
Bien sûr.
On peut se tutoyer parce que ton vouvoiement me gêne. Là.
D'accord.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2007, donc ce n'est pas si longtemps que ça, il y a un sculpteur bordelais, Étienne Balma, qui a trouvé un banjo dans une poubelle rue Croix-de-Seguet et qui me l'avait prêté pour un spectacle que j'avais fait à l'Onyx en 2008. Et ce banjo, à l'intérieur de sa caisse, il y avait un papier gras sur lequel était écrit d'une écriture féminine à mon sens, cadeau d'un soldat américain, le mort homme, septembre 1918. Rien que d'en parler, ça me fait trembler la lèvre inférieure. Alors tout le monde m'a dit, toi qui aimes bien le banjo, toi ça, il faut que tu te mettes à écrire un livre sur l'histoire de ce banjo. Comment ce banjo est-il arrivé là? J'ai à peu près fait le parcours de ce banjo, c'est-à-dire que c'était sans doute un régiment qui s'appelait le 314e bataillon d'artillerie de Virginie, composé de 770 vigoureux montagnards de West Virginia, qui était parti de Norfolk en mai 1918 et qui a traversé le Mort-Homme dans l'offensive Argonne-Meuse, 24, 25, 26 septembre 1918. Il est possible, alors c'est un régiment d'artillerie, pourquoi pas d'infanterie? Parce que l'infanterie, ils avaient déjà tellement de bazar à porter sur le dos que s'il fallait en plus qu'ils se tapent un banjo, c'était pas possible. Donc l'artilleur avec ses caisses, il a toujours un moyen d'eux. Donc je me suis penché sur la guerre de 14, j'ai lu tout ce qui existait sur la guerre de 14, et je me suis aperçu qu'il y avait un endroit qui était très peu traité et qui m'a fait tilt, c'est l'histoire de l'insoumission, c'est-à-dire pas les déserteurs, parce qu'il y en a eu beaucoup de déserteurs, on ne l'a pas dit beaucoup. Pas les objecteurs de conscience, le terme n'existait pas. Les réfractaires, c'est un mot qu'on a regardé du temps de Napoléon. Mais les gens qui étaient insoumis, qui disent « non, j'y vais pas ». Et alors, pour répondre maintenant à ta question, l'état-major français pensait qu'il y aurait entre 10, 15, 18% d'insoumis. Il n'y en a eu que 1,5%. Pourquoi ils pensaient 15%? Parce qu'ils étaient persuadés que l'insoumission serait un phénomène urbain qui se passerait dans les villes avec des syndicats qui tout simplement feraient grève de la guerre. On nous dit d'aller travailler, on fait grève. On nous dit d'aller à la guerre, hop, on fait grève. Il y avait même un carnet B en France qui existait dans lequel 2500 pacifistes, syndicalistes, antimilitaristes étaient répertoriés. Et le 1er août 1914 à 14h35, le ministère de l'Intérieur a envoyé cette lettre à tous les préfets de France. N'appliquez pas intégralement, même en cas d'ordre de mobilisation, les instructions sur l'application du carnet B. L'attitude actuelle des syndicalistes et des cégétistes permet de faire confiance à ceux d'entre eux qui y sont inscrits. Donc on avait senti le jour même, à 14h35, le 1er août, que le mouvement ouvrier ne ferait pas grève de la guerre et irait à la guerre. Alors où est-ce qu'ils sont passés tous ces insoumis? Parce qu'il y en a eu, j'ai fait le recensement, il y a eu 32 000 cas d'insoumission à la déclaration de guerre, et il y a eu 1600 jugements au Conseil de guerre entre août et décembre 14 sur des hommes qui s'étaient pas présentés. Alors très curieusement, et c'est là où on arrive à mon vif du sujet et à la question que tu m'avais posée, c'est qu'une majorité des insoumissions, je vous rappelais le chiffre de 1,5% pour toute la France, dans les Pyrénées, c'est 9%. Au Pays Basque, je ne vous dis pas combien. Bon, alors là, il y a quand même un détail à signaler, c'est que le Pays Basque, une bonne partie des insoumis, c'était des gens qui étaient en Amérique du Sud et qui n'allaient pas remonter ou en Amérique du Nord et qui n'allaient pas revenir se payer le voyage pour venir ici. Alors c'est très curieux, cette description de l'insoumission dans les Pyrénées, 9% de mobiliser insoumis, Dans les Pyrénées-Orientales, 2,86%. Dans les Basses-Pyrénées, 18% d'insoumis. Et très curieusement, dans l'Ariège, il y a peu d'insoumission, sauf dans le canton de Oust, un canton frontalier, où il y a 21% d'insoumis. Parce qu'on est en canton frontalier. Quant au Pays Basque, ça m'a fait rigoler. Je dois avoir les chiffres du canton de Mauléon. Dans le canton de Mauléon, en 1916, il y avait 1077 insoumis à Mauléon, 732 à Tardets, 782 à Saint-Palais, 1035 à Ioldi, 1302 à Baïgory et 1310 à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors le plus amusant, c'est que toutes les informations que je viens de vous donner sur l'insoumission, elles sont apparues sur les écrans d'informations, bibliothèques, etc. à partir de 2009. Or, mon livre était écrit en 2008. Oui, mon livre était écrit en 2008, parce que suite à la découverte de ce banjo, je me suis empressé d'écrire un livre sur la guerre de 14. J'ai écrit, ça s'appelait pas l'insoumis, ça s'appelait Une odeur du café, l'odeur du café de ma mère même. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on...
De Mahmoud Darwish.
En insert au début, vous avez Ma patrie, c'est boire le café de ma mère. Donc ce livre-là, sous le nom L'odeur du café de ma mère, était écrit en 2008. Et puis je l'ai laissé tomber parce qu'il m'est arrivé un incident grave, j'ai perdu ma fille. Ce qui m'a permis de retravailler ce livre sous un angle nouveau, celui de la mort. Et surtout de la mort quand on n'en est pas proche. Ces femmes des Pyrénées qui voyaient leur mec mourir à 800 km, qui ne les voyaient pas justement, qui ne savaient rien. On en lira peut-être quelques extraits. Donc ça m'a fait tilt, et ce qui m'a fait un dernier tilt, c'est la... Et ça, ça fait longtemps, parce que ça fait 20 ans que je vais dans la vallée de Campan. Le monument à mort de Campan, je vous le conseille à tous, si vous avez l'occasion d'y passer. C'est un de ces rares monuments à mort pacifiques que vous trouvez en France. Donc il n'est pas guerrier pour un rond. C'est une femme de 3 mètres de haut, en pierre noire, dont on ne voit pas le visage, il est creusé. Elle est dans une attitude recueillie, avec une cape. Et au pied de cette femme, vous avez les trois richesses de la vallée, la laine, le beurre et le bois. C'est tout. Le nom des mecs, il est à l'intérieur de l'église. Mais le monument aux morts, c'est d'une sobriété, d'une simplicité fascinante. Et je me suis dit, si le conseil municipal de Campan, et dans bon nombre de vallées des Pyrénées ou des Alpes, ça a dû se passer, a décidé en 1923-24 de construire ce monument, c'est que la guerre, pour eux, ce n'était pas une partie de plaisir, certainement pas. D'où mon envie d'écrire ce livre, mais je le rappelle, terminé en 2008, fin 2008.
Très bien. Il y a une, je voudrais préciser une chose, c'est que le spectacle va se dérouler en deux parties. Il y aura d'abord un échange, et ensuite vous pourrez poser des questions. Donc je vous laisse réfléchir à des questions éventuelles sur les divers sujets que nous allons aborder, ou d'autres d'ailleurs.
Et en dernière partie, je signerai les livres qui n'auraient pas été signés, bien sûr. C'est vers 9h du soir.
Donc, je vais continuer, puisque tu évoques donc l'insoumission, parce que c'est quelque chose qui revient souvent au fil du livre. En fait, les gens se demandent, mais comment autant de paysans répondent présents à la nation lorsqu'elle les appelle ?
Mais c'est la question que tout le monde se pose, et dans tous les livres sur la guerre de 14, et Dieu sait si on va en avoir, qui vont tomber dans les mois qui viennent et les années qui viennent, est-ce que c'était du consentement ou de la contrainte ? Et personne n'a la réponse. Mais c'est vrai que ça me fascine. Bon, c'est vrai que pour la simplification de l'histoire, tous les hommes du village partent le même jour, le lundi 3. Ça m'arrangeait qu'il y ait une belle messe avant leur départ, et hop, ils s'en vont tous. Le départ a été un peu plus échelonné, mais de 4-5 jours, 6 jours, pour finir quelques travaux, en particulier les travaux qui concernaient la forêt, les arbres, parce qu'il y avait un gros danger. Donc, pour ta question, c'était quoi déjà ?
Mais, oui, dans le livre, c'est même le curé du village se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils partent tous comme ça, sur une affiche, hein,
On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Du temps de Napoléon, pendant les guerres napoléoniennes, et en particulier dans les Pyrénées, dans tous les massifs montagneux, même dans les monts d'Arrée en Bretagne, il y avait de la résistance, des réfractaires, on n'y allait pas. Dans les Pyrénées, je sais, ça existait dans les périodes napoléoniennes, et j'en parle dans le livre, il y avait des parents qui ne déclaraient pas leurs garçons, ou qui disaient que c'était des filles, ou qui disaient qu'ils étaient morts, pour pas qu'ils aillent à la guerre. Parce que les réquisitions napoléoniennes, ce n'était pas de la rigolade. Celle de 1914 non plus, mais ça, ils ne le savaient pas avant de partir. Donc c'est un mystère qui nous échappe à tous et qui sera peut-être résolu à la fin des 4 années qu'on va passer d'anniversaire. Est-ce que c'était de la contrainte ou du consentement, de la pression sociale? C'est vrai que Jean-Marie, le héros,
oui.
Au moment de l'affichage de la mobilisation et du tocsin dans le village, il n'est pas là. Il est dans la montagne avec ses bêtes.
Tout à fait.
S'il avait été au village, je le dis d'ailleurs quelque part, s'il avait été là, est-ce qu'il se serait laissé embarquer? Est-ce qu'il aurait soulevé les autres? Je pense qu'il se serait laissé embarquer comme les copains. Il y avait quand même un phénomène, pas moutonnier, mais une pression sociale intense.
Que l'on ressent d'ailleurs dans l'ouvrage, même si elle est légère dans ce village. Il n'y a pas de... Finalement, il y a le maire, hein, qui est un peu ennuyé parce que c'est le seul insoumis de la vallée, c'est dans son village. Donc ils se sont obligés de faire un peu de zèle, mais pas trop finalement. Il n'est pas très zélé. Évidemment, il y a...
Alors je vais t'interrompre. Dans les versions antérieures, le maire, c'était un vrai con, si je puis me permettre. Moi, je me suis dit, si je fais ça, si un jour le maire de Campan, qu'est-ce qu'il va me dire? Ça se passe pas à Campan, hein, on est bien d'accord. Ça se passe dans une vallée des Pyrénées. Mais j'en avais fait un infâme salaud, un séide de la République. Là, j'en ai fait un homme qui obéit aux ordres. Il est maire d'un village, il est responsable de ce village. Il faut y aller, point.
Il est un peu coincé, hein, quand même.
Il est coincé, on est d'accord. Mais enfin, il obéit aux ordres. Et s'il faut capturer Jean-Marie, il le capture. Mais c'est vrai que le village, sans résister, puisqu'ils sont tous partis, même au moment où il est capturé, Jean-Marie, il y a déjà pas mal de ses copains qui sont morts, puisqu'il le livre commence le 2 août, hein, et il est capturé vraisemblablement à la fin du mois d'octobre, au début du mois de novembre. Il a déjà 2 ou 3 copains qui sont morts, parce que ça aussi c'est un truc qu'on nous a caché pendant très longtemps. Le plus de morts pendant cette guerre, c'était en août et en septembre, ouais. Quand ils avaient le pantalon rouge et le casque, il n'y en avait pas.
Ouais. La première bataille de la Marne.
Hein, il n'y en avait pas. Et en plus, c'était, je ne sais plus si c'était Joffre ou Foch, parce que je les confonds régulièrement, qui avait dit « Inutile de faire des quarts, de leur faire faire des casques, ça va finir très vite. » Ils ont dû attendre 1915, au mois d'octobre, pour qu'il y ait enfin le casque Adrien sur la tête de nos soldats. Avant, ils avaient une jolie casquette en carton bouilli. Vous voyez ce que ça peut donner.
Donc, ces hommes partent, restent les femmes. Alors, le rôle, évidemment, des femmes dans cette guerre, on n'en parle pas souvent, on parle souvent du poilu. Mais
Joseph Delteille a écrit un très beau texte sur la poilue. il a écrit, c'est l'un des plus beaux livres que je connais sur la guerre de 14.
Sur le rôle
Le poilu, et il y a un chapitre qui s'appelle La poilue.
Donc, sur le rôle des femmes pendant cette guerre. Qui est énorme, parce que la mobilisation, c'est de 18 à 45 ans, je crois.
Oui, jusqu'à 48 ans, je crois.
Jusqu'à 48 ans, ce qui est énorme, qui enlève, qui dévitalise le pays.
Hein, surtout dans les régions agricoles.
Donc, ces femmes, alors il y a Lucie, qui est une institutrice. Il y a Louise, qui est la belle-sœur de Jean-Marie. Il y a Maria, qui est la maman de Jean-Marie. Hein, très, très importante également. Donc il a un frère qui part, il a un frère qui est déjà militaire, qui est dans les chasseurs alpins. Donc Jean-Marie voit son frère Peyot partir, et lui, eh ben, il est au-dessus de sa vallée et il reste. Et lorsqu'on lit les pages, parce que bon, il y a un premier chapitre d'exposition qui raconte la vallée, fort bien d'ailleurs. Ensuite il y a...
On dirait du Giono, hein.
Oui. Oui, 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 oui.
Qui me l'a dit une fois.
Non, mais je trouve mieux, même si je trouve plus simple.
Et si tu peux dire ce que tu veux.
Et c'est donc après ce premier chapitre, donc il y a le tocsin qui sonne. C'est donc.
Tiens, voilà.
C'est donc la mobilisation. Et là, on se dit, ben ouais, pourquoi il irait? Parce qu'un archiduc s'est fait assassiner à Sarajevo. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y a une phrase, tu dis, nos gouvernants ne sont pas assez détraqués pour en arriver là. Eh ben si, parce que il y a eu cette histoire. Aujourd'hui, les gens se battent encore pour savoir pourquoi cette guerre a eu lieu. Et c'est vrai qu'on est à sa place, on se dit, ben reste dans ta montagne, mon gars. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce qu'on peut être patriote néanmoins et avoir ce sentiment, parce que j'imagine que tu es patriote, Nicolas.
J'aurais fait comme les copains, vraisemblablement. Nous sommes patriotes. Mais c'est vrai que le début de cette guerre, est, c'est pour ça qu'il n'y va pas aussi, qu'il est insoumis, parce qu'il a de longues conversations. C'est un garçon qui a eu une proximité très forte avec le curé du village, hein, et qui lui a appris à lire beaucoup de choses, qui lui a appris à herboriser, à l'apiculture, etc. Et ils ont des échanges sur ce qui se passe. Et le curé lui dit un jour, tu te rends compte, la théorie des dominos. Si la Serbie, ping, 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 tout le monde entier se casse la gueule. Et ils ne sont pas assez fous pour en arriver là. C'est ça, cette phrase.
Oui, détraqué.
Détraqué, oui. Tu as raison. Je ne me rappelle plus. Mais toi, tu l'as bien lu. Donc, ils ne sont pas assez détraqués pour en arriver là. Et c'est vrai que Jean-Marie, quand il entend parler de guerre, il se dit, c'est pas possible. Quelqu'un qui a un peu réfléchi au préalable, il se dit, c'est pas possible.
Mais si.
Mais si.
C'est possible. C'est même possible de recommencer 30 ans après. Bon, très bien. Donc, ce gars-là, qui, il joue pas du banjo, mais il joue de la mandoline. Alors, on va en parler parce que c'est un instrument populaire, la mandoline.
Oui, le banjo mandoline aussi.
Ouais.
Bon, si tu veux ce sujet, la signature aura lieu vers 10h.
Non. Un petit intermède musical.
Mots, en deux mots, un de mes fils, un jour dans un marché à Bagnères ou à Beaudéan, enfin dans la vallée, a trouvé une photo d'un berger en train de jouer de la mandoline que j'ai agrandi, il est beau comme un dieu. Et j'ai pensé à ce berger pour mon bonhomme là. Il est beau, il a des dents bien faites, il a un regard aquilin, il est superbe et il joue de la mandoline. Oui, la mandoline a été extrêmement pratiquée en France sous l'influence, je pense, et j'en suis sûr, de l'immigration italienne,
oui,
bien évidemment. Et après la guerre de 14, donc après cette histoire-là, le banjo mandoline a été pratiqué partout. Moi, à l'époque où je faisais des concerts de banjo un peu dans tous les coins, j'avais toujours une mamie ou un papy qui se pointait, qui me disait « Vous savez, j'ai un banjo mandoline. » Il me montrait un superbe instrument fabriqué en France. Il y avait des luthiers en France. Donc la mandoline, extrêmement populaire en France, au tournant du 19e, 20e siècle. Et en particulier chez les femmes, parce que ça présente l'avantage d'être un instrument avec un manche très petit, où il n'y a pas trop de pression de corde, où il y a un son agréable. On peut en jouer. Quand vous jouez du violoncelle, vous écartez les cuisses, excusez-moi les filles, ou la guitare aussi. C'est une position qui n'est pas jolie. Alors que quand vous jouez de la mandoline, vous la tenez contre vos seins, c'est quelque chose de très charmant. Excusez-moi.
Toujours dans, pour rester dans la musicologie.
J'aime bien.
Donc, il joue dans un orchestre, hein, Jean-Marie, qui est composé d'un tambourin, d'un accordéon. Alors, est-ce que on dansait sur ce genre d'orchestre, des trios?
Alors, le tambourin, c'est le tambourin béarnais. Je pense qu'il y en a eu dans toutes les vallées. À savoir, c'est une espèce d'instrument long, une caisse longue comme ça, creuse, avec des cordes tendues.
Assez aiguë, alors.
3 ou 4 cordes. Non, elles sont longues, les cordes. Tu les accordes et tu tapes dessus avec une baguette.
D'accord.
Les basques ont ça avec le tistou, le tchoun-tchoun.
Ouais.
Et on va trouver ça en Béarn, on va trouver ça en Bigorre. D'accord. Également. Donc tu as des notes sympathiques qui résonnent, donc on ne change pas d'accord, on tape dessus.
Très bien.
L'accordéon, je pense, c'est très répandu depuis toujours aussi dans ces régions-là. Mais ça, c'est peut-être une invention de ma part.
Alors c'est une région où on danse, avant la guerre bien sûr, parce qu'après les hommes ne sont plus là, donc il n'y a plus d'orchestre, il n'y a plus de cavaliers. Il n'y a plus de danse. On danse quoi? Alors, la polka, chirouli et quadrille. Alors, polka, quadrille, ça me sonne.
Chirouli, c'est une danse du coin.
Ouais.
C'est joli, je trouve ce nom superbe. Oui, on danse le chirouli.
C'est très joli.
Viens, Madeleine, on va danser le chirouli. Rien que de penser à ça, ça me fait plaisir.
Ça fait penser à du vent. Je crois qu'en gascon, vent, c'est cholette. Siffler, c'est cholette. C'est vent aussi.
Peut-être.
Chirouli, je ne sais pas, ça fait penser à du vent.
On va se penser sur le chirouli la prochaine
fois.
Ouais,
d'accord. Très bien. Alors, il y a aussi beaucoup de mots locaux. Hein, dès que tu peux, tu glisses des mots locaux. On a tardillon.
Bon, c'est pas un mot local.
C'est pas un mot local, mais il est rarement employé.
Je le trouve superbe.
C'est un archaïsme.
Jean-Marie est le dernier d'une famille de 7 ou 8 où il y a eu des fausses couches, où il y a eu des décès, etc. Et sa maman se félicitait qu'on lui fasse un petit tardillon. C'est pas des Pyrénées, c'est pas dans le dictionnaire, mais je l'ai vu quelque part et je l'ai trouvé superbe. Ma femme est un petit tardillon et c'est voilà.
C'est marrant parce que je regardais dans mon petit dictionnaire moi aussi et c'est un mot qui est employé pour les animaux.
Ah bon, je dirais, tu le diras pas à ma femme alors. Un tardillon.
Bon, il y a le mot cortao.
Ah, le cortao, ça c'est au Pays Basque, ils vont appeler ça un caillolar ou un couillala ou un... Il y a tout un tas de noms. Comment vous appelez ça au Pays Basque? Un caillolard.
Caillolard.
Voilà. C'est ces fermes, c'est les estives, les fermes d'altitude où les bergers allaient s'installer, passer tout l'été et descendaient des fois tous les 15 jours à la messe pour aller... Oui, le dimanche pour aller à la messe ou faire le plein de nourriture nécessaire. Mais ils avaient presque tout ce qu'il fallait là-haut. Et c'est là où on a beaucoup parlé de la guerre de 14 et des dégâts que j'ai pu aller constater sur place en faisant la traversée du Morhomme il y a 4 ou 5 ans. Les dégâts dans les vallées, toutes les vallées de montagne et dans toutes les terres, mais dans la vallée de Campan, je dirais que c'est assez manifeste parce que... tu permets que je fasse un petit aparté?
Bien sûr.
Ces montagnes sont... Ça, c'est un texte de 1667. Ces montagnes sont pleines de sources et de ruisseaux jusqu'aux extrémités. Ils font 1000 petits canaux le long des coteaux par le moyen desquels, arrosant et tenant toujours humides, ils les rendent si fertiles, si abondants en herbes qu'ils surpassent les meilleurs prés vus jusqu'ici. Un texte très ancien, j'en ai quelques-uns comme ça, sur les vallées des Pyrénées. L'irrigation dans les vallées des Pyrénées est impressionnante, ce qu'il en reste. Parce que en altitude, ils allaient choper l'eau d'un torrent là, ils lui faisaient faire, dans la vallée de la Gaoube, près de chez moi, tu as 4-5 km, mais parfaitement réglé pour pas qu'il y ait trop de pente, ben, pour aller arroser un autre flanc qui, lui, n'avait pas la chance d'avoir eu un torrent. Et tous ces... quand on se promène dans ces vallées, on voit encore les traces et des Courtaou avec des ruines. Il y en a, je crois qu'il y avait quelque chose comme 90 petits hameaux dans la seule vallée de Campan, avec certains dont on devine encore au sol comme une rue, avec 5, 6, 10 fermes qui étaient fermes ou maisons qui étaient installées. Ça, c'est tombé à bas. Il n'y a plus que des pierres qui... Et de temps en temps, l'office du tourisme qui en a gardé un ou qui l'a restauré pour pouvoir faire un refuge où les gosses de la vallée viennent fumer un joint. Mais donc, entre ces Courtaou qui sont en ruine et tous ces petits acheminements d'eau qui ont disparu, dont on voit juste la trace, la rigole, quand il y a un gros orage ou qu'il y a de la neige, c'est plein. Mais en temps ordinaire, il n'y a plus l'arrosage ne se fait plus. Sauf dans la vallée, au fond de la vallée, où ça se fait. Mais sur la montagne, les Suisses ont ça aussi, ça s'appelle les bis en Suisse, B-I-2-S-E. Mais pour tracer une bis dans les Alpes, il faut être fou, furieux, il faut avoir de la gélinite, du TNT, etc. Il faut faire des tunnels, il faut faire des tranchées, il faut l'installer comme ça à flanc de coteau. Tu as une falaise, tu as ta bis qui passe avec 20 ou 30 mètres en dessous. Ça, c'est un exercice fou. Dans la vallée de Campan, c'est tellement paisible qu'il suffit de creuser et tu vas faire ton torrent.
Très bien.
Monsieur, je peux t'en raconter d'autres.
Mais c'est très bien. Jean-Marie reste un peu plus haut que le village. Il se cache. Hein. Il veut échapper donc aux gendarmes. En même temps, ce qui lui facilite les choses, enfin d'une certaine manière, mais d'une autre, ça les complique un peu. Il tombe amoureux de l'institutrice.
Il était tombé amoureux juste avant la déclaration de guerre, mais ça avait capoté parce qu'elle, c'est une institutrice assez laïque, de par son papa, qui était aussi instituteur. Et lui, bon, c'est un gentil cubéni, quoi.
Oui, dans le livre, cette opposition laïque et non laïque revient assez souvent. On sent que c'est une des tensions très fortes hein, de cette époque, avec ces deux manières, disons, on peut considérer que ça allait rester, finalement. C'est deux manières de considérer tout, hein, quasiment. Hein. La vie, l'histoire, la société, le mariage, même les sorties le dimanche. Hein.
Oui, ou les relations sexuelles et tout ça. Lui, c'est un brave puceau, lui, quand même.
Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Je confirme. je me prends à témoin, je suis pour rien, mais c'est un fait. Donc, cette opposition, elle passe par le papa de Lucie, qui est un employé de mairie, je crois.
Instituteur.
Instituteur aussi, pardon. Oui. Et qui est très, très...
Alors, comme tous les instituteurs de l'époque, il est également secrétaire de la mairie.
De la mairie, oui. Ah, c'est ça. Il est un peu bouffard de curé. Enfin, on le craint un peu. Et puis finalement, il est assez modéré. Et le livre se passe à ce niveau-là sur un terrain d'entente. Hein. Il y a une espèce de pacification, disons, post-1905.
Oui, c'est vrai. Mais je pense que dans ces villages très catholiques des Pyrénées, en 1914, il y avait un conflit quand même assez fort entre la République et l'Église. Parce qu'il n'y avait pas à peine 9 ans que les biens avaient été saisis, les couvents fermés, les trucs, les machins, donc ça devait saigner un petit peu. Et c'est vrai que je suis apaisant. Mais tu le sais d'ailleurs, que j'essaye d'apaiser tout.
Tout à fait. Ouais. Non, tout à fait.
Peut-être trop. C'est mon innocence.
Oui, oui. C'est vrai que le livre, les relations... mais finalement, dans ces vallées, je ne vois pas pourquoi régnerait l'ultra-violence à cette époque-là. Après tout,
alors,
c'est un peu normal qu'il y ait...
C'est pas sûr.
Une certaine
autre
douceur,
texte,
non,
si vous permettez. Pour ce qui est, là, c'est un texte de... Il est de quand, celui-là? Toujours, c'est le toujours... Non, c'est de 1667. Froidour. Mémoire des pays et des états de Bigorre. C'est un grand... Froidour, c'était un grand maître des eaux et forêts. Pour ce qui est des mœurs des habitants, c'est une merveille surprenante que les peuples qui habitent les monts Pyrénées étant brutaux, perfides, cruels et nourris parmi les meurtres et les assassinats, ceux de cette vallée, la vallée de Campan, aient conservé de l'humanité, de la bonne foi, de la douceur, à tel point qu'il faut demeurer d'accord qu'il n'y a point de lieu dans le royaume, ni dans le monde, même, où la police soit meilleure et mieux observée.
Voilà. Donc, ce livre est dans le droit chemin de cette déclaration.
Un peu, oui. Mais comme c'est dit un peu plus loin, à ce moment-là, c'était Ramon de Carbonnière qui comparait cette vallée de Campan. Ah non, c'est Young, un explorateur anglais au XVIIIe siècle. Arrivé à la vallée de Campan, de laquelle j'avais entendu merveille et qui dépassa encore beaucoup mon attente, toute la pente resplendit de la plus riche et de la plus luxuriante végétation. Ce paysage est dans l'ensemble, par la forme et la couleur, le plus exquis dont mes yeux se soient jamais régalés. Ce que dit le commentateur de ce texte que j'ai là, c'est que on est fin 18e siècle, Rousseau est pas loin. L'homme qui vit en bonne ménage dans un équilibre harmonieux avec la nature, etc. etc.
Hein. C'est un peu Jean-Marie, ça. Hein.
C'est un peu Jean-Marie, c'est un peu moi. On pousse.
Ouais. Mais même le curé est rousseauiste à ce moment-là.
Oui, aussi, le curé est rousseauiste. Mais le curé, on est d'accord qu'il était curé en plaine et qu'il a été déplacé à la demande du préfet parce qu'il avait des idées modernistes.
Oui, oui.
Et on l'a foutu là-bas chez les paysans pour qu'ils se taisent.
Mais bon, il a encore l'occasion, sinon, de parler, du moins d'agir.
Oui.
Et il ne s'en prive pas. Il y a un personnage qui est assez... Bon, alors, il y a Lucie, hein, une brune un peu esmeralda, une brune un peu brûlante, disons. Hein. Mais il y a un personnage qui est en retrait, c'est Louise. Hein.
Ah, elle est superbe, Louise. Louise, elle est née. Voilà, Louise, c'est la... Il y a donc Peyot, Jean-Marie, l'insoumis, qui a un frère qui s'appelle Peyot, qui est marié à Louise. Et Louise et Peyot, ce couple-là mériterait presque qu'on fasse un autre bouquin, moins innocent d'ailleurs.
Oui.
C'est un couple qui s'est marié parce que c'était une bonne poulinière, elle, et que lui, il avait du bien, quoi.
Elle le dit d'ailleurs. Hein.
Elle le dit, oui. Il m'a épousé parce que j'étais une bonne poulinière. Et ils ont découvert l'amour. Et pas forcément l'amour où on cause, mais l'amour où on s'entend bien, où on se machine bien, etc. Et lui, il meurt très tôt. Et Louise se prend de tendresse pour l'institutrice. Au point que, c'est vrai, elles dorment ensemble. Mais ce n'est pas équivoque de ma part. Hein. Parce que quand elle est enceinte, elle a besoin de se sentir protégée, vu que Jean-Marie est parti en définitive à la guerre, vu qu'il s'est rendu. Elles dorment ensemble, elles vivent ensemble, très proches. Et ce couple de ces deux femmes m'a semblé très intéressant. Et je pense que ça a dû être très fréquent pendant cette guerre. Ces couples de femmes qui se retrouvaient bien. Il y a même une BD qui vient de paraître, là, qui m'a l'air super bien. Où c'est l'histoire d'un homme qui vient en permission et qui se déguise en femme pour pouvoir rester avec sa femme. Je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai vu ça. Je l'ai lu un peu en vitesse à la FNAC. Ça doit être passionnant. Et je suis sûr que dans les 4 années qui viennent, on saura peut-être pas s'il y avait eu contrainte ou consentement, mais ces problèmes d'insoumission, d'insubordination, de désertion. Parce que ça, après, moi je parle que de l'insoumission là. Mais la désertion après, à partir de 1915, après les premières permissions, ça y allait. Hein.
Hier soir d'ailleurs, sur Arte, il y avait Les Sentiers de la Gloire, qui traite de ce sujet-là. Mais en 1917,
et qui a été interdit pendant combien d'années en France?
Oh, ben, jusqu'aux années...
18 ans.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est Giscard d'Estaing qui l'a autorisé.
Donc, ce personnage de Louise, donc Peyot, son mari, meurt au front. Hein.
Oui,
il part
dès
au
le
front.
Début.
Oui. Et elle fait partie de ceux qui reprochent un peu à Jean-Marie son attitude insoumise. Elle n'est pas très contente. Elle dit « Pourquoi tu ne fais pas comme ton frère, qui lui a du courage, etc. » Et cette Louise, c'est un personnage intéressant parce qu'elle évolue au fil du roman. Elle change, elle est très intelligente. Elle s'adapte à la situation et elle prend une autre. C'est pas la même. Disons que quand on referme le livre, c'est pas la même Louise.
Elle a changé.
Elle a changé.
Hein ? Tout à fait.
C'est un personnage qui a vraiment évolué et la mort de son mari, évidemment, l'a fait évoluer.
Alors elle dit, tu me permets que je lise un texte.
Ah oui,
très
bien
court.
Sûr, bien sûr.
Je crois que. Peyot à mes côtés, là c'était une séquence où pendant le premier hiver 14, donc Jean-Marie s'est rendu, etc. Oui, je peux le dire en deux mots. Ce livre se divise en trois parties. La première partie, c'est avant la déclaration de guerre. La deuxième partie s'appelle Amener les couleurs, c'est la déclaration de guerre. Et la troisième partie, In Ac Lacrim Larum Valley, dans cette vallée de larmes, c'est un échange de correspondance entre le village et le front. Dans un précédent travail, dans l'odeur du café, il y avait beaucoup de lettres de Jean-Marie. Jean-Marie racontait sa guerre. Je me suis dit, ça sert à rien, mon vieux. Tout le monde l'a fait déjà. Donc là, c'est plutôt des lettres du village vers Jean-Marie, pour lui raconter ce qui se passe au village. Et là, donc, c'est une courte séquence où Louise et Lucie dorment, et elles n'arrivent pas à dormir. Peyot à mon côté, je dormais comme une masse. Depuis sa mort, je suis réveillé par le même cauchemar. Mon homme crevant dans un coin, je ne sais comment, je ne sais où. Trop cruel de rester dans l'ignorance, condamné à remâcher une vision. Mon mari vivant, rouspétant, travaillant comme un bœuf ou m'aimant avec fougue, et mon mari mort, silencieux, étendu à jamais, loin d'ici, dans une terre inconnue. Qui me dira la réalité ? Une bombe déchiquetant son corps charpenté, une balle fracassant sa tête de bois ou perforant son cuir épais pour l'atteindre au cœur, ou encore une baïonnette vicieuse. A-t-il été blessé? A-t-on tenté de le soigner ou l'a-t-on laissé crever? A-t-il eu le temps de se voir partir? A-t-il confié à l'un de ses camarades un mot, un objet pour moi? Ces questions empoisonnent mes nuits. Je dois me contenter de la notification du maire, mort en défendant une position importante. Formule toute faite balancée à des milliers de veuves et d'orphelins. Non content de me voler Peyot, il me dépossède aussi de sa faim. Je pense que ce qui l'a fait bouger, Louise, c'est que la mort de Peyot, elle n'a pas vu. Et toute sa vie, elle va avoir son esprit gangréné par qu'est-ce qui lui est arrivé ? Hein ? Et c'est vrai que ça revient plusieurs fois, mort en défendant une position importante. Vous rendez compte, vous recevez un papier, mort en défendant une position importante. Je crois, si je ne m'abuse, que c'est d'ailleurs le texte qui avait été utilisé pour l'annonce de la mort du grand-père de ma femme, qui est mort en septembre 14, mort en défendant une position importante. Et je l'ai encore. Tu vas faire ton deuil. Le deuil, ça ne se fait pas. Mais va progresser avec ça. Mort en défendant une position importante. Mort en passant à l'ennemi, en attaquant l'ennemi. Une autre question.
Ou mort à l'ennemi.
Mort à l'ennemi, oui.
L'expression mort à l'ennemi. Oui. Alors, on va parler de quelque chose d'un peu plus léger. On va parler des animaux, parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans cette vallée. Et il y en a un qui est très important, c'est Frisquette. C'est
la chienne, oui.
La chienne, une labri.
Une labri, oui. Mais tous les gens qui ont eu des labris en sont tombés fous. J'en ai une dame,
c'est vrai.
Que je connais bien.
C'est un chien extraordinaire.
C'est un chien sensationnel, toi aussi, ouais. Michel. Moi, j'en ai eu un qui s'est fait écraser par les bagnoles.
C'est formidable.
Alors, oui, c'est un chien exceptionnel. Si on le dresse bien, si on l'habitue bien.
Ouais,
Et moi, j'ai vu une fois dans la vallée, c'était en montant vers le pic du Midi de Bigorre, un berger seul dans un creux, 200 à 300 moutons qu'il fallait récupérer et un seul labri qui faisait le rassemblement des 300 moutons. Au sifflet.
Ouais, ouais. Mais même les labris qui sont, disons, exportés à la ville, dès que vous les promenez à la montagne, ils redeviennent bergers instantanément.
Mais un labri doit faire 80 km par jour, je crois. Alors c'est vrai que moi j'en ai eu un à la campagne. Même en ville, un labri, il est un peu malheureux, quoi. Il fait du lard. Et dès qu'on l'amène à la montagne, dans la neige, il est fou.
Ah, oui, c'est super.
Alors, il y a des abeilles aussi dans le...
Des abeilles, très important les abeilles. C'est un... c'est une des activités de
Jean-Marie. Pour se faire un peu d'argent de poche, oui.
L'apiculture.
Il fait de l'apiculture, il a 3-4 ruches, c'est le curé qui lui a appris à se faire les abeilles. Et je le signale d'ailleurs dans la vallée de Campan, il y a un apiculteur qui a 76 ans, c'est un Autrichien, qui est peintre, Bruno Schmelz il s'appelle. C'est un peintre assez connu, il a exposé ici à la galerie Mably. 76 ans, il est moniteur de ski à la Mongie. Ça conserve, et il me dit, l'apiculture, ça, le miel, ça conserve.
Oui, c'est vrai.
Je voulais remercier Joël Raffier d'être venu me faire le modérateur. Nous avons fait un numéro sympathique
avec,
tous les deux.
Avec plaisir, merci.
Joël, on s'est rencontrés en 2003, ici chez Mola, à la parution du livre sur le banjo. Il avait lu une bonne partie du livre et il avait trouvé ça très bien. Merci Joël.